C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoumoudadi, Florence Mendez,
Salut.
Alors, t'es là,
je sais pas.
Tanguy Pastureau, Daniel Morin, et nos invités, Emmanuel Berco, Benoît Magimel, et
Florence.
Oh oui.
C'est bon, Tanguy, merci.
Gabriel Sarah, le professeur, c'est de lui que tout est parti. On va en parler dans quelques instants avec Emmanuel Berco. Ce film réunit Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Cécile de France.
Ça va.
Un casting de ouf pour un film de dingue qui s'appelle De son vivant et qui sort demain au cinéma. On va en parler avec eux dans quelques instants. Ce film tourne autour du cancer qui va frapper le personnage joué par Benoît Magimel. Alors comment faire un blind test là-dessus comme sujet? Vas-y.
Le signe astrologique vivant.
Serge Gainsbourg.
Qui chante?
Tanguy?
Ouais.
Non, Johnny?
Non.
Non.
Non, c'est Born to be Wild, ça, non?
Non.
Mais non.
Attends, ça...
C'est vrai qu'on aurait dû allumer le feu.
Morgan Goldman?
Non.
Non, Johnny?
Non.
Et Dimitri Laurence?
Non. Morgan.
Daniel?
Oui.
Dutronc?
Non. Écoutez bien.
C'est...
Morgane Arnaud?
Non.
Non, il y aurait un accent Arnaud. Florence Kéfen?
Non,
on n'entend pas.
On ne veut pas s'asseoir dans un bureau noir, attendre le car pour entrer tout le soir. On veut des sourires.
Sébastien?
Patrick Sébastien?
Sébastien Tellier?
Patrick Sébastien?
Non, mais c'est pas vrai.
Si.
J'étais choqué en le disant, mais.
Ouais, tu l'as pas dit, tu l'as dit dans ta
ouais.
barbe. Ça s'appelle Vivant et c'est Patrick Sébastien, écoute.
Kimi. Johnny. Kimi Johnny.
On a fait quelque Genre. Chose de mal que tu nous punisses comme ça dès le matin.
Bah c'est bien fait quand même.
C'est bien fait pour lui. Qui chante?
Lio. Canteloup du coup?
Non.
Laurent Gérard.
Florence, Patrick Hernandez.
Non.
Zazie.
Christine The Queen?
Faites vite parce que à la voix ça va partir très très vite.
Ah, alors attends.
Titre.
Pardon. Céline Dion?
Non.
Daniel.
Là.
Ouais, Daniel.
C'est Ardo.
Et...
Bravo. Le Mitch. Temps glisse sur ma peau. Oh, Daniel, c'est son truc, Sardou.
Bah, ah, oui, c'est...
Je m'en fous, j'ai mis le point à Patrick Sébastien.
Titre.
J'ai mis le point à Patrick Sébastien. Mais non, mais je rêve.
Tu fais ce que ça, tu veux de tes samedis, la grande.
Il n'y avait pas d'article.
Méga titre.
Il n'y avait pas d'article.
En tout cas, c'est quelqu'un qui dirait pas non, je veux pas. A priori.
C'est là que vient le plus grand cabaret du monde.
Eh ouais.
Qu'est-ce qu'on est serré.
On est sur ma piste.
Au fond de cette boîte.
Qui chante?
Tanguy.
Oui.
Aimons-nous vivants, François Valéry.
Oh là 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 là.
Ah bah oui. Level. J'adore. On peut le laisser en entier? Il avait fait ce duo.
Est-ce que tu peux me laisser en entier? Je crois que c'est un titre.
François Bellery avait fait ce duo très gênant avec Sophie Marceau quand elle était jeune aussi. Et elle avait 13 ans. Et
très gênant.
Touché partout, c'était très compliqué. C'était génial. Oui, j'adorais, mais c'était compliqué.
Lui aussi?
Oui.
Qui chante ça? C'est pas simple. Très France Inter.
Une fuite.
Ah, très France Inter.
Non.
Dominique Ah. Claire Diterzi, joli.
Non.
Bertrand Belin.
Non.
Vincent Delerme. Benjamin Violet.
Attends.
Mathieu Bogart?
Non.
Juliette Armanet?
Non.
Barbara?
Oui.
France Inter.
C'est très France Inter de 75, oui.
Bah oui.
Il a pas dit le contraire.
C'est très France Inter, surtout.
Non, c'est très France Inter.
Boum, jeu de mots, je suis humoriste. J'ai des prix qui prouvent que je suis drôle.
Tu fais ta batterie toute seule?
Voilà, exactement.
Attention qui chante. Dans le mal.
Morgan?
Oui.
Non, rien. Faut que je m'aille.
Demain, Leïla,
oui.
Amel Bent.
Joli.
Oh, oh, bien joué.
Il y avait une intro un peu rock qui nous a trompés. Hein.
Ouais.
Mais c'est ça, ça avait l'air bon. C'est pour ça que j'ai pas pensé. Dans le mal.
Non, écoute, moi j'allais dire Mademoiselle K là. On était sur autre chose quand même.
Moi j'allais dire Kyo,
tu vois.
Qui chante ça?
Johnny?
Bah Patrick Sébastien du coup.
Un point pour Tanguy, 2 pour Daniel, 3 pour Leïla. Attention, c'est le super.
Je pense en pas, genre.
Tu sais, te déshabiller ou faire en mesure que cette émission.
Enlève ce casque.
C'est non, ça, c'est Johnny, hein, c'est l'effet de Johnny.
Je veux pas louper le point.
Alors, c'est maintenant.
Anne Sylvestre.
Non.
Florence Arnaud, les yeux de ma mère.
Non.
Ah, ça ressemblait.
Ouais, à fond, hein. On
mais
est
aucun
d'accord.
Rapport avec le cancer.
Non, ça s'appelle Vivant.
Ah, Vivant.
Le titre.
Une chanson.
Leila.
Pour tous oui. Ceux
Dave.
Que la vie.
Daniel, bravo. Frédéric François.
Frédéric François, oui.
Bah, il chante comme Dave. Hein.
C'est fou parce que je le cite dans ma chronique, Frédéric François.
Vivant, François Valéry, Frédéric François, ce blind test a changé.
Oui. Je ne peux pas dire ça quand j'ai la vessie pleine, ça fait
victoire de Daniel.
Oh, bravo Daniel.
Quoi
bravo, bravo.
Ah oui, c'était le super banco.
Bim, bam, bam. Ah, je te le donne si tu veux.
Je me casse.
Merci. Oh d'accueillir Emmanuel Berco et son casting,
oh là là.
Benoît Magimel et Gabriel Sarr.
France Inter, la bande originale.
Non, il y a un truc qui s'appelle Covid. Emmanuel Berco se dit, tiens, il n'y a plus public. Non, il y a un truc qui est passé par là.
Ils sont tous morts.
On vous tiendra au courant, Emmanuel Berco, de ce qui s'est passé depuis quelques temps. Avant de commencer, et même avant de finir cette émission, Emmanuel Berco, bravo.
Oh là là.
Bravo, 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 merci. Un milliard de fois.
Ça va, c'est pas le film du siècle. Non.
C'est pas ce que vous m'avez dit.
Ah, je veux savoir où, moi, maintenant. Non, mais bravo, parce que ce film est évidemment bouleversant, parce que ça parle de cancer, ça parle de la vie, ça parle de tous ces rapports humains autour, mais surtout, il est d'une justesse, d'une intelligence qui fait du bien.
Qu'est-ce que ça fait du bien de pleurer, hein? Qu'est-ce que ça m'a fait...
D'accord, moi, je trouve aussi.
Ah, j'ai besoin de pleurer souvent.
Et si on chialait tous, là, maintenant là,
ouais. Attends, on va pas chialer deux minutes.
Sincèrement, Emmanuel, dans un premier temps, on a tous malheureusement trop de personnes autour de nous que l'on aime, qui nous ont quittés à cause du cancer. Je me suis dit, je vais pas y arriver, j'ai pas envie. Voilà, ça va remuer trop de plaies. Et en fait, l'élégance, l'intelligence et la manière dont tout est fait, la justesse avec laquelle Benoît Magimel interprète le personnage, l'intelligence, la psychologie du docteur Sarah, tout ça nous embarque. Alors oui, ça fait pleurer, oui, ça nous touche plus qu'autre chose, mais c'est d'une justesse. Je me demande d'ailleurs pourquoi et comment ça n'avait jamais été fait avant, et d'ailleurs comment ça s'est fait. C'est vraiment une rencontre à New York, un peu people, un peu showbiz, où vous êtes rencontré avec Gabriel Sarah et
ah
vous.
Non, c'était pas showbiz.
C'était pas la fin d'une projection.
C'est la fin d'une projection de La Tête Haute, un film que j'ai fait avec Benoît. Et il avait vu le film, il avait assisté au débat après, et il a attendu pour me parler et me dire tout simplement, tu veux dire ce que tu m'as dit peut-être.
Ben je voulais à tout prix la coincer parce que j'ai une seule chance, oui. J'ai une chance de parler à cette dame, c'est maintenant. Sinon c'est fichu. Et donc il y avait 30-40 personnes entre elle et moi qui lui parlaient, et moi je sais de coincer son regard.
Et une fois qu'elle m'a regardé. De survoler la foule.
Oui, une fois qu'elle m'a regardé, j'ai dit. Je voulais la choquer avec quelque chose. J'ai sorti une phrase sans réfléchir.
Une accroche, ouais.
Je lui ai dit, madame, est-ce que vous seriez intéressée d'aller dans les tranchées du cancer?
Ouais, vous avez des phrases d'accroche, vous.
Sympathique.
Ah ouais.
Et je pense que ça l'a choqué, et puis il m'a regardé, et j'ai dit, je travaille dans un centre. De cancéreux à côté d'ici, si ça vous intéresse, on peut en parler. Et il m'a donné son email et voilà comment l'histoire a commencé.
Je vais mettre ça comme phrase d'accroche.
Je veux juste te dire que ça a tilté aussi. Enfin, moi j'ai pris ça comme un signe parce que j'étais en train de commencer à écrire. Non, je cherchais pas d'idée, j'avais une idée.
D'une mère et d'un fils.
D'un mélo, d'abord. Je voulais absolument faire un mélo d'une mère qui perd son fils du cancer. Donc évidemment, il me dit ça.
Ah, il y avait déjà ça qu'on
parlait. Ah, mais
pas.
Oui.
Ah, pardon, je croyais que c'était juste un mélo mère-fils.
Non, ce serait pas aussi fou si. Non, je voulais écrire là-dessus. Oui,
d'accord.
Oui, c'est un signe.
Ah, oui. C'est fort.
Il y a les étoiles qui se sont alignées, je pense, quand on s'est vu. Et il y en a eu plein d'autres après.
Et ouais. Benoît Magimel. Et
quoi?
Benoît Magimel. Bah,
ça va, pas, déjà, ça va parle, pas bien de nous faire pleurer comme ça.
On parle beaucoup de vous en ce moment parce que j'ai envie de dire, il n'y a pas un film dans lequel vous n'êtes pas.
Il y en a deux.
Ouais. Ça tombe par hasard.
Qui tombe en même temps et qu'on a adoré en même temps. Donc déjà, bravo pour Amant, bravo pour De son vivant. Même s'il doit y avoir à peu près 40 kilos d'écart entre les deux films.
Ah oui, ouais, à l'aise, ouais. Garcia me disait bouffe, faut que tu manges, bouffe. bouffe. J'avais des notes de room service.
C'est ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit qu'elle voulait absolument que vous grossissiez, que vous ayez un côté monstrueux.
J'étais face à Pierre Ninet, Stécie Martin, qui était tout finot. Et puis voilà, elle m'a dit, toi, t'es le pendant, quoi. Donc, faut...
Il y a un côté Depardieu qui
est là. Il m'a donné des conseils.
C'est ce qu'elle a dit à ce micro. Et puis là, évidemment, c'était tout l'inverse. Emmanuel Berco vous a sûrement
évidemment
dirigé
dans une autre piste.
Est-ce que
des notes de spa
avez-vous lu
pas le
ou pas le scénario? Parce que la rumeur dit que vous n'aviez pas lu le précédent.
Oui, c'est vrai, j'avais pas lu le précédent, parce que c'était elle qui m'intéressait, quoi. Enfin, le précédent, quoi, le premier. Ouais. Mais non, là, je l'ai lu. Je l'ai lu, et je crois que j'ai rarement été autant bouleversé par la lecture d'un scénario. Et je me suis assis par terre chez moi, je me suis dit, ouais, c'est beau, c'est très beau, quoi. Mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi elle veut me proposer ce rôle?
Parce qu'elle a confiance en vous, parce qu'il faut, quelqu'un qui puisse nous emmener dans cet état-là de, à la
et
fois.
Et pourtant,
de fragilité.
Vous coûtez cher, hein. Vous coûtez beaucoup de pognon, quoi.
Ouais,
pas une blinde.
Non, mais c'est vrai que ça a été, moi, j'étais bien suivi. J'étais bien sûr. Vraiment, ils m'ont bien entouré, quoi. Mais c'est vrai que c'était ça, le challenge. C'était juste de perdre une vingtaine de kilos, quoi. Bon, c'était bon. À part ça, c'est une histoire magnifique. C'est tellement frontal que ça fout. C'est vrai que ça fait. C'est un choc parce que t'as pas d'échappatoire. Le mec est condamné. Tu te dis, mais c'est pas juste. C'est insupportable. Comment je fais? Est-ce que je peux m'en sortir? Non. Il y a pas de possibilité de s'en sortir. Donc qu'est-ce que je fais avec ça? Il faut que j'accepte forcément cette maladie. Il faut que je vive avec. Et faut que j'en tire quelque chose, faut que je vive pleinement.
Mais c'est pour ça que le titre est fort, de son vivant, c'est-à-dire que tout se passe pendant cette espèce de compte à rebours où lui est un professeur, un acteur, et qui dédie sa vie à vivre des rêves et à vivre tout intensément jusqu'au bout. Chaque seconde doit être essentielle dans le jeu de l'acteur et du prof, et c'est ce qu'il transmet à ses élèves.
C'est l'art vivant, voilà. En plus, c'est ça, par excellence.
Ce qu'il n'arrive pas à faire pour lui, finalement, c'est ça. Il essaye de le transmettre à ses élèves. Vivre intensément ces instants, savoir dire au revoir, regarder les gens, leur dire qu'on aime, ces choses assez simples qui sont peut-être parfois trop difficiles à dire. Et voilà, il essaye de laisser ça derrière lui parce qu'il se demande s'il a assez vécu, est-ce qu'il a vécu assez, qu'est-ce qui se passera après. Quand je serai une fois parti, il y aura même pas la moindre secousse. C'est ça qui est terrible. Le monde continue et vous êtes plus là.
Ouais.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Donc c'est des questions.
Questions qu'on peut pas se poser quand on fait de l'art comme vous. C'est-à-dire que là, quoi qu'il se passe, et j'espère que vous vivrez tous le plus longtemps possible, mais forcément on laisse une trace quand on est un artiste, quand on sculpte, quand on peint, quand on écrit un livre, qu'on fait un film, on laisse des traces.
C'est vrai aussi pour Vianney. Hein.
Oui, c'est vrai. Voilà. Mais ouais, c'est vrai aussi pour les chanteurs, tu as raison.
Oui, et encore, moi, je me posais ces questions-là parce qu'on peut pas jouer ça si on s'identifie pas pleinement. Mais à chaque fois, pour moi, le cinéma, ça avait pas vraiment d'importance. Je me disais, qu'est-ce qui est important? C'est transmettre quelque chose, c'est d'exister dans le souvenir des gens qu'on aime. Qu'est-ce qui nous permet de rester vivants? C'est pas forcément un film, mais ça va au-delà. Et c'est pour moi, je l'ai pris comme un conte philosophique, vraiment sur, voilà, ouvre les yeux. On veut pas parler de la mort, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. La mort, ça fait peur. Personne n'ose parler de ça, on a la trouille, et c'est un cancer, c'est un mot tabou. À un moment donné, il faut essayer de regarder les choses en face pleinement et arrêter de flipper, justement.
Et ça fait pas peur de s'engager dans une telle aventure, parce que c'est une aventure.
Ben, moi, j'avais la trouille de me dire que j'ai passé combien de temps là-dedans, ça veut dire que c'est un tunnel. Et puis, je suis superstitieux, j'ai 45 ans, je me suis dit, tiens, c'est le moment de faire un check-up, faut peut-être vérifier. Ce film n'arrive pas par hasard, ouais, il va m'arriver quelque chose. Voilà.
Non,
mais j'ai commencé le tournage comme ça, je te jure.
Benoît, si ce qui vous arrive dans le film vous arrive dans la vie, il y a un moment où vous n'avez plus de vie. Parce qu'avec tout ce qui vous est arrivé au cinéma, vous avez commencé.
C'est un cancer injuste, c'est un cancer du pancréas, ça tombe dessus, tu sais pas pourquoi.
Jean-Paul Rouve, il n'a pas gagné à l'Euromillion. Hein.
C'est du cinéma, Benoît.
Oui, mais bon, tu sais quoi, on est superstitieux. Moi, il y a des films parfois dans ma carrière qui sont arrivés. Je me disais, il me choisit, c'est pas par hasard, je vis exactement la même chose dans ma vie, pourquoi? Donc celui-là, il est arrivé, c'est Emmanuel, donc je peux pas le refuser, et je suis heureux de le faire avec elle. C'est pour ça que d'ailleurs, si c'était pas elle, je l'aurais pas fait, mais voilà. Mais ce film, on l'a tourné sur un an, et ça m'a permis, comme le personnage, de changer mon point de vue. Au début, j'étais pas du tout d'accord avec Gabriel. Je disais, mais toi, ta méthode, moi, ça me plaît pas, j'ai pas envie de savoir les choses.
On va en parler, voilà. Parce qu'elle est particulière, cette méthode. Tu voulais rajouter quelque chose?
Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans le film, c'est que votre personnage, en fait, ce professeur de théâtre, théâtre, il donne à jouer aux jeunes élèves qu'il a autour de lui les choses qu'il ne sait pas faire, les choses qu'il a envie de peut-être de se projeter en fait, le dernier baiser, la dernière étreinte, la dernière caresse. Et en fait, c'est des scènes comme ça, on pourrait se dire ah, c'est entrecoupé de sa vie pour lui donner une forme d'humanité, mais ça va bien plus loin que ça en fait. Emmanuel Berco, c'est comme des scènes préparatoires de vie, comme s'il se nourrissait de la vie ces jeunes gens pour ensuite voir ce qu'il peut en faire lui dans sa propre existence et dans cette d'autant fin qui est annoncée en fait.
D'autant qu'il a un peu foutu en l'air sa vie privée et ses repères perso, quoi.
C'est ça. Mais c'est un choix de pas montrer sa vie personnelle plus que ça. Il a une relation forte avec sa mère.
On a évacué tout ce qui était vie sociale, vie amicale, etc. pour se recentrer sur ce qui se passait entre ces 4-5 personnages principaux. Et on voit le personnage que joue Benoît uniquement dans sa vie professionnelle, c'est-à-dire dans son cours de théâtre.
C'est plus qu'un cours de théâtre,
oui.
En fait.
Ouais. Ces scènes, elles sont métaphoriques de ce qu'il va avoir à traverser.
Oui, puis il y a des transferts faits. Alors ça, c'est peut-être des clichés entre une jeune actrice et son professeur. On se dit, ouah, déjà vu quoi, la fille qui tombe amoureuse de. Mais encore une fois, là, le traitement est sublimé et avec intelligence. Ne croyez pas, Gabriel Sarah, que vous passez entre les gouttes de nos questions, parce que on en a des doses et des tonnes de questions à vous poser.
Et puis de gênantes en plus.
Il est évident que sans vous, le film n'aurait pas eu la même texture et que. C'est pas le travail d'un docteur, d'un oncologue, ce docteur qui soigne les cancers. C'est de la psychanalyse, c'est du relationnel, c'est du coaching humain, ou voire du mentalisme par moment. On va en parler avec vous, parce que c'est sûrement aussi l'une des leçons les plus fortes de ce film. De son vivant, ça sort demain au cinéma. On est ravis de vous avoir tous les trois ici à ce micro. Nous sommes ravis. Ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Voici Morgane Cady.
Allez!
Parce que Morgane ne vous aime pas, mais pas du tout.
Oui, chiale déjà. Benoît Magimel, Emmanuel Berco, je vous aime pas parce que vous avez tellement réussi à me toucher tous les deux sans jamais m'avoir croisé. Et je parle pas d'un MeToo par télépathie. Genre Mesmer qui dérape sale. Je parle d'être touché par une œuvre. Mais putain, mais quel film! Par contre, Emmanuel, fallait le sortir en juin, hein, parce que de son vivant en plein mois de novembre, c'est quand même toute une aventure pour mon petit cœur. Je m'en souviens très bien. La dernière fois que ça m'a fait cet effet-là, c'était 120 battements par minute, 120 shots de votre catagade derrière pour être foutu de penser à autre chose. Votre film, je le mets dans la catégorie, moi j'appelle ça les films pyja club, parce que si tu le regardes dans ton lit, tu te relèves pour fumer une cigarette, même si tu es non-fumeur en culotte au milieu de ton salon à te dire, peut-être partir sur un petit épisode de Friends moi. Donc votre film, Emmanuel, j'avais zéro chance déjà, quand juste la bande-annonce, ça te fout en l'air. Tu sais que ça va être chargé. Moi juste au teaser, j'ai eu le cœur au bord des yeux, donc autant. Avant de regarder le film, j'ai fait des étirements, ça n'a pas du tout marché. D'ailleurs, j'ai rempli des petites bouteilles de larmes, hein, que ça serve à quelque chose. Si quelqu'un en veut, je vais te faire de la contrebande de Stérimar dans tout l'espace Schengen. Rien à foutre. Après, j'ai pleuré, mais j'ai beaucoup souri, parce qu'on l'a dit, c'est également très tendre. Et après avoir regardé le film, j'ai dû appeler l'intégralité des gens que j'aime pour leur dire que je les aime. Deux coups de fil super intenses, dont un à Daniel qui m'a répondu « C'est qui ?» Heureusement que j'aime pas grand monde, parce que pour pallier à la peur de perdre ses proches, figurez-vous que la solution, ça reste de ne pas avoir de proches. T'économises des cadeaux d'anniversaire et des larmes. Sur le long terme, la solitude, super opération. Bon, bien sûr, c'est chiant. Pour tout ce qui est sport de raquette, tout de suite, ça devient super cardio. Sinon, on s'habitue, mais j'ai réalisé que je disais pas assez aux gens que je les aime, parce que la dernière fois que j'ai dit « Je t'aime » à un membre de ma famille, il m'a répondu « Oh non, merde. Le médecin te donne combien de temps ? Du coup, j'ai dit, mais y a rien, Victor. Je t'aime. T'es mon frère. Je t'aime. C'est tout. Pourquoi tu crois que j'ai pas de cœur ? Il me dit, parce que quand on a annoncé la mort de tonton 3 semaines avant Noël, t'as répondu que ça tombait pas mal parce que t'avais pas assez de flûte en champagne. Alors, j'adore mon oncle, mais elle est à Ikea le 23 décembre. C'est une autre forme de deuil. Je suis un peu sèche, mais c'est pour rendre service. C'est vrai, en général, on perd les gens qu'on aime. Donc, je me dis que si je les aime pas, ils n'ont aucune raison de mourir. Finalement, c'est de la philanthropie, cette chronique, hein. Je comprends pas pourquoi je suis pas encore médaillée de l'ordre du mérite. Réveille-toi la Macronie. Benoît, dans le film, évidemment, votre interprétation tout en nuance, sensibilité, c'est incroyable. Par contre, la mauvaise nouvelle pour vous, c'est que maintenant, c'est tellement bien joué que je m'inquiète réellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me donner votre adresse et je vais passer tous les matins chez vous très discrètement, prendre vos constantes, vérifier que vous prenez bien votre petit magnésium, tout ça. Gabriel, j'ai envie de passer l'hiver roulé en boule dans votre moustache. Voilà, c'est ça. C'est trop dur.
C'est bon, ça.
Emmanuel, j'ai planché sur votre biographie et effectivement, vous avez de quoi marcher la tête haute, film que vous réalisez en 2015, même année que votre prix d'interprétation pour Mon Roi, dans lequel c'est quand même vous la reine. Alors, pour de son vivant, vraiment, en plus de la couronne, je vous remets la médaille et toute la quincaillerie.
Yes,
merci.
Wow. cœur au bord des yeux.
Morgan aux métropoles du jeudi au samedi à 20h.
Ouais,
pour
à
des blagues.
Et au pompe funèbre générale, hein, le dimanche.
Et alors, ces moustaches dans lesquelles tu as envie de te rouler en boule. Mais Gabriel, Sarah. Gabriel. Qui êtes-vous?
Moi, j'ai une boule au niveau du sein. Je voulais savoir
qui êtes-vous, Gabriel? D'où venez-vous?
Ben, moi, je suis libanais. J'ai étudié à Beyrouth et à Paris ma médecine. Puis j'ai été en Amérique pour me spécialiser. Bon, j'ai fait la cancéro, l'hématologie et j'ai commencé ma carrière. Et dont je suis tombé amoureux. J'adore ce que je fais. J'adore. Je suis passionné par ce que je fais tous les jours. Et ce qui est merveilleux, c'est que tous les jours, j'apprends quelque chose dans la science et de mes malades. Chaque malade est une occasion pour moi d'apprendre quelque chose de nouveau en plus.
D'accord, mais vous êtes médecin, vous êtes spécialiste, vous retrouvez à jouer votre propre rôle, même si le personnage n'a pas votre nom. D'ailleurs, vous avez tenu, Emmanuel, est-ce qu'il ne s'appelle pas docteur Gabriel Sarah ?
C'est lui qui n'avait pas envie de porter son nom dans le film, donc j'ai respecté son... Moi, j'aurais préféré qu'il s'appelle docteur Sarah.
Pourquoi vous avez voulu vous protéger derrière un personnage ?
Non. Enfin, les gens me connaissent, mes amis me connaissent, bien sûr, me reconnaissent. Mais je ne sais pas, je trouvais que c'était peut-être un peu arrogant, prétentieux de porter mon nom dans le film. Donc j'ai gardé mon prénom.
Oui, enfin, de demander à s'appeler Superman, c'est très arrogant et prétentieux aussi. Il y a un petit côté. Non, mais c'est parce que c'est tellement vous, on vous voit. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'on comprend et on sent que tout ce qui est dans le rapport à la famille, à la maladie, aux soins, à la transmission, à l'enseignement,
à la musique,
à la psychologie, c'est votre domaine et vous le maîtrisez totalement et vous le faites très naturellement. Et en même temps, il y a des scènes, Emmanuel, où c'est un acteur incroyable. Il y a des double takes comme ça, il y a des moments et des respirations, des regards où on se dit, mais quel putain d'acteur, quoi.
C'est vrai que vous respirez bien. Vous respirez hyper bien.
Vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais ce qui était beau, c'est que après, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de travail.
C'est pas n'importe quel docteur qui aurait pu jouer comme ça.
Non, bien sûr que non. Ouais. Mais c'est comme tous les noms professionnels. Moi, quand je prends Rod Parado, enfin, je veux dire, c'est pas mon premier film avec quelqu'un qui n'avait jamais joué. J'en ai fait plein des films avec quelqu'un qui n'avait jamais joué. Mais ce qui était beau avec Gabriel, c'est que.
Mais pas qu'ils jouent leur propre rôle.
Non, c'est vrai. Tout à fait. Très bonne remarque.
Merci.
Un point.
Mais on prend toujours des gens un peu proches du personnage quand on prend des gens dans la rue. Ce qui était beau, c'est que Gabriel, il a appris à jouer au fur et à mesure du tournage. Et plus le tournage a avancé, plus il était bon. Et même, il a eu un déclic. J'ai vu son déclic. Un jour, on a parlé très longuement. Et je lui ai expliqué que ça ne suffisait pas d'être juste. Et de connaître son texte, parce qu'il connaissait son texte sur le bout des doigts, Dieu sait qu'il en a des tartines, et il était juste. Et donc il pensait que...
Il n'en faisait pas trop.
Non, mais il pensait que c'était bien, et en fait ça ne suffit pas, c'est pas ça être acteur, il faut beaucoup plus que ça. Et j'ai vu le moment, après une discussion qu'on a eue, et peut-être des choses aussi que tu as dit Cécile, de France, ça a permuté dans son cerveau, et il est devenu acteur. C'est assez fou.
Expliquez-nous la nuance.
Hein ?
La nuance, c'est jouer sur quoi ?
C'est des heures de discussion, donc là je vais pas faire...
Mais alors Gabriel, vous l'avez senti à quel moment, cette différence entre être juste, connaître son texte, ce qui peut suffire à beaucoup d'actrices et d'acteurs en disant « je suis juste, je connais mon texte, tout va bien », et il y a le petit truc en plus. C'est quoi le petit truc en plus?
Au début, moi je pensais naïvement qu'il fallait jouer le rôle de Gabriel Sarah. Il fallait jouer le rôle de ce type que je connais. Jusqu'au moment où, après une discussion avec Emmanuel et puis Cécile qui m'a dit plusieurs petits mots, j'ai compris qu'il ne fallait pas jouer le rôle de Gabriel Sarah, il fallait être Gabriel Sarah, point final. Donc une fois que j'ai compris ça, ça a changé totalement ma façon d'être. Maintenant, comme je jouais avec des acteurs extraordinaires, Benoît, Catherine, Cécile, et que le coach que nous avons est aussi incroyable, je sentais que je vivais vraiment ma vie de tous les jours. Et quand je voyais Benjamin malade, je le regardais comme un vrai malade. Et je lui parlais comme je parlerais à un vrai malade.
Alors c'est ça qui est intéressant, parce que malheureusement, pour en avoir croisé des médecins qui pratiquent votre spécialité, ils n'ont pas tous cette intelligence, ce comportement, cette psychologie. Et vous, vous abordez la vérité entre la maman jouée par Catherine Deneuve et son enfant joué par Benoît Magimel. La vérité, vous l'abordez, vous leur parlez, vous dites que il est beaucoup plus grave de mentir que de dire la vérité, notamment sur le temps qu'il reste à vivre pour un malade du cancer, entre autres, pour aussi décrire ce cancer et ce qui va se passer avec une chimio. Parce qu'on emploie le mot chimio, et on en a parlé à ce micro avec Clémentine Célarier, en disant que quand on entend cancer, déjà on dit condamné, quand on entend chimio, on dit mort. Allez, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus rien. Et c'est la fin de tout. Et vous le faites avec une gentillesse, une délicatesse, une intelligence, mais beaucoup de... Oui, je ne sais pas quoi dire d'autre. Que psychologie, c'est-à-dire que vous analysez, vous êtes dans la tête des autres pour savoir ce qu'ils ressentent et savoir comment leur parler.
Oui, oui. Ce qui me permet de faire ce que je fais, c'est que je crois profondément à la vie. Et je crois profondément que quand un malade a un diagnostic pareil, d'habitude, les gens déjà pensent à leur funérailles,
oui.
Automatiquement. C'est instantané, même si c'est un petit cancer parfois. Et il faut que je fasse un ajustement dans leur façon de penser, de leur expliquer, bon, vous avez une maladie, il y a des solutions pour l'aider ou de la guérir ou bien la régler un petit peu, mais vous êtes la même personne. Vous avez les mêmes rêves, les mêmes passions, vous êtes aimé par les mêmes personnes qui vous aiment. Et donc, il faut que je rappelle à ces malades qui sont les mêmes personnes. C'est tout, c'est simple. Une fois qu'on a compris ça... Je les aide avec le bureau de la vie et toutes ces choses que j'ai imaginées.
C'est ça. Ce sont des exercices si je dis des exercices de coaching, je ne sais pas, encore une fois, je suis désolé pour les mots choisis, mais ce sont des exercices où vous, notamment, il y a ces 5 phrases à dire avant de partir, qui sont bouleversantes, qui sont « Je te pardonne, pardonne-moi, merci,
je t'aime,
au revoir. » Et je m'attendais... Allez, je m'attendais à trois des 5 phrases. Je m'attendais pas au au revoir. C'est le au revoir qui m'a le plus bouleversé de toutes ces phrases.
Oui, mais le au revoir, comme il va arriver de toute façon, il est logique.
Oui, mais il n'y a pas de revoir.
Ouais.
Il y a peu de chance qu'on se revoie quand même.
D'accord.
Mais c'est ce au revoir, moi, qui m'a bouleversé. Comme si on se donnait rendez-vous dans une autre vie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut croire à une autre vie ?
On peut l'interpréter comme on veut.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Mais alors, d'où vous est venue cette philosophie ? Parce que vous êtes philosophe, vous êtes dans une analyse mentale, humaine, humaniste, qui est incroyable.
Et qui est très déstabilisante, mais dans le bon sens du terme.
Oui. Bon, moi, je m'intéresse à ceux qui sont autour de moi, en général, ma famille, mes amis, les gens que je connais, j'aime m'intéresser à savoir qui ils sont, qu'est-ce qui les fait vibrer tous les matins, etc. Donc, je suis passionné par les gens que je connais. Et avec le temps, quand on voit les gens sous cet angle, on apprend tous les jours quelque chose. Et donc, elle s'est développée avec les années d'expérience. Et c'est comme ça que je dis que j'apprends tous les jours de mes malades, parce que je veux les découvrir. Et ça me fait découvrir en même temps qui je suis, qu'est-ce que je peux être. Et aussi, je me rends compte de l'importance que j'ai et de la responsabilité qu'un oncologue a quand il prend en charge un malade. On devient en fait leur coach pour la vie. On les guide pour tout. Et il faut être à la hauteur de ça. Donc on doit constamment améliorer qui nous sommes, nous, pour pouvoir gérer la vie de ces malades.
Et alors, quel malade jouait Benoît Magimel quand on est... Parce que on peut se dire, ok, lui, il est formidable, il est exceptionnel, c'est un docteur hors norme, mais il est comme ça avec tous ces malades. Or, il n'y a pas deux malades qui se ressemblent. Et là, il fallait être un malade en particulier, et aller sur un terrain de quelqu'un qui ne veut pas savoir au début, qui ne veut pas trop y croire, et puis qui se rencontre au fur et à mesure.
Oui, c'est ça. Moi, c'est la seule manière. J'ai essayé de regarder des choses sur des gens, justement des malades, des gens qui filmaient un peu toutes leurs maladies, etc. Mais en fait, ça ne m'apportait rien. Simplement, je me suis dit qu'il fallait s'identifier le plus possible.
Donc vous êtes projeté dans la situation d'apprendre que vous aviez le cancer.
J'ai essayé de tirer les choses le plus vers moi. Et Et voilà, et je suis passé par toutes ces étapes. Et c'est vrai que ce film s'est tourné sur une année. Et cette année m'a permis d'évoluer comme le personnage, quoi.
Est-ce que vous êtes fait du mal en mangeant peu, en vous affaiblissant physiquement, musculairement, pour vous êtes extrêmement aminci sur le lit d'hôpital. C'est pas un trucage, c'est quand vous êtes obligé de le vivre pour le.
Non, pour mais en même temps, c'est vrai que c'était une grosse perte de poids qu'il fallait effectivement se priver. Mais Emmanuel voulait pas non plus filmer la déchéance physique. Un point trop difficile à regarder, quoi, parce que c'est vrai que c'est très dur. Mais
c'est pas un documentaire, en fait.
C'est ça. Et c'est un film, justement, qu'il faut prendre vraiment le regarder comme un objet de cinéma, avec un sujet qui peut être effrayant, mais voilà, ça permet, parce que c'est tellement frontal, comme je disais tout à l'heure, mais ça permet d'ouvrir les yeux et de les ouvrir en grand. Parce qu'effectivement, ce que fait Gabriel, moi, c'est comme ça que c'est avec lui, en fait, que j'ai avancé. Que mes points de vue ont évolué, que j'ai regardé les choses autrement, et que j'ai fini par accepter les choses et capituler. La lutte, c'est infernal de se battre. De lutter, d'être en colère en permanence, c'est fatigant.
Vous parlez de quelle lutte? Contre la maladie ou contre le médecin?
Non, la maladie, elle est injuste.
Ouais.
Et on est constamment en train de se dire, c'est pas normal. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis il y a une honte qui s'installe. On commence
c'est ce qui est dit dans le film. Est-ce que vous avez honte?
On s'enferme dans un truc. On devient,
C'est pas un cancer. En plus, c'est un cancer qui ne vient pas ni du tabac, ni d'une mauvaise consommation, ni de drogue, ni rien.
C'est injuste.
C'est quand on vous explique qu'il y a tout d'un coup un compte à rebours, c'est là que vous vous réveillez, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai assez vécu? C'est pas avoir fait mes films, c'est pas toute la carrière que j'ai. C'est pas ça, vivre. Vivre, c'est tout ce qui est à côté. Mes enfants, ma famille, les gens que j'aime. Est-ce que j'ai assez dit je t'aime? Est-ce que j'ai assez voyagé? Est-ce que j'ai fait? Et là, on énumère toutes les choses comme ça, et c'est vertigineux parce que je me dis mais j'ai rien fait, j'ai plus le temps.
C'est pour ça qu'il faut vivre jusqu'au bout.
Et c'est pour ça qu'il faut vivre. Et c'est tous les matins, et quand on a un compte à rebours, là, on se le dit. Et c'est toujours ça. C'est terrible de se réveiller un matin avec ça, en disant, mais putain, là, je prends la force des choses. Je prends conscience, en fait, que la vie, c'est un truc tellement précieux qu'il faut la pousser. Et c'est ça qui m'a appris, Gabriel. Et malgré le fait que pendant des semaines, je regardais, je disais, mais moi, ta méthode, elle m'intéresse pas. J'ai pas envie que tu me parles. Me parle pas. J'ai pas envie de savoir. J'ai pas la force morale, moi, de savoir que tout d'un coup, je suis face à la maladie. Laisse-moi tranquille.
Et après ce tournage, vous avez changé des choses dans votre vie ou pas?
Bien sûr. C'est-à-dire que même encore le matin, je me réveille, je me dis, vas-y. Parce que, vous savez, la déprime, en fait, je dis toujours, c'est à côté de vous, c'est un travail, c'est une discipline de vie que de se dire ça, que de se dire chaque jour est important, parce que à côté de vous, le pessimisme, la déprime, elle fait des pompes à côté de votre lit, elle s'entraîne. Vous voyez, tous les matins, il faut se rappeler.
Elle se muscle.
Ouais. Vous êtes là, vous dites, non, j'ai pas besoin de rebosser sur le dossier, mais si, il faut bosser sur le dossier tous les jours.
Et vivre jusqu'au bout, quoi. Essayez. Risquer, toutes ces phrases-là sont dites aussi dans le film, parce que évidemment les deux mentors, l'un dans la médecine, l'autre dans le théâtre et dans la vie, se répondent finalement l'un l'autre. Emmanuel Berco, c'est vraiment ce ping-pong-là aussi. Ce sont deux coachs à leur manière.
Mais la spécificité du personnage de Benoît, c'est qu'il n'arrive pas, lui, à appliquer. Enfin, c'est un testament qu'il laisse à ses élèves. Et moi, j'ai adoré écrire ce texte parce que.
Catherine Deneuve à ses élèves.
Oui, et qu'on entend dans la bande-annonce, parce que c'est des choses que j'avais envie de dire à des jeunes acteurs. Tout simplement, mais on peut le dire à n'importe qui aussi.
Ce qui va à toutes les professions.
Oui, ça va à tout le monde. Là, je l'écris pour des jeunes acteurs, donc. Mais ce qui est beau, c'est que il fait le constat que il dit à un moment cette phrase c'est un moment qui est pour moi bouleversant où il dit je n'ai pas intensément vécu si j'avais su. Donc il laisse ce testament à ses élèves pour que eux ils y aillent à fond, qu'ils vivent intensément.
C'est ça. Ouais. Et qu'ils savent, qu'ils soient généreux et authentiques. Et puis, il y a d'autres intrigues. Il y a aussi l'intrigue de sa vie privée, justement, de son ex-épouse, de son fils, et puis les rapports mère-fils aussi, qui sont extrêmement forts dans le film. Il y a il y a tout à prendre de toute façon.
On a rien compris, on n'a pas du tout aimé ce film.
Ouais, ça s'appelle De son vivant, c'est au cinéma. Demain, on va continuer d'en parler avec vous trois. En tout cas, c'est une réussite.
Plus que ça, ce
film qui sort demain en salle et qu'il faut absolument voir. Voici Florence.
Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une chronique pas drôle. Qu'est-ce que ça change de d'habitude, me direz-vous ?
Rien.
Eh bien, cette fois-ci, c'est fait exprès. Voilà. Alors la question du cancer, c'est une question qui me touche beaucoup puisque le demi-frère de mon fils a eu un cancer auquel il a survécu. Ce qui a malheureusement pas été le cas de son pote Orville qui est décédé à 12 ans d'une tumeur au cerveau. Et la veille des funérailles d'Orville, j'ai écrit une lettre à mon fils pour lui parler de la mort de son copain. Et aujourd'hui, voilà, j'ai eu envie de vous la lire. Ok, ça va, je t'ai menti. Là, t'es content ? Tu viens maintenant ? Ah non, hein, tu me regardes pas comme ça. Il y a du reproche dans ces yeux-là, tes yeux tout verts de colère. T'as rameuté tous tes nuages, bientôt ça fera un grand brrr, et puis il pleuvra sur tes joues. Je suis désolée, je voulais pas. C'est parce que je t'aime que je t'ai dit ça. Et même que je l'ai pas dit qu'à toi, je me le suis dit à moi aussi. Chaque jour au moins depuis que t'es née, parce que je voudrais que ce soit comme ça. Je me souviens de ce jour-là. J'avais encore pris mes grands airs, toujours ceux que je prends quand je veux faire croire que je dis des trucs un peu savants. La mort, je t'ai dit, c'est comme le Yakult, les prothèses de hanche et Frédéric François, c'est pour les vieux. Les vieux, tout recroquevillés dans leur fauteuil. Ils ont fait leur valise, ils sont prêts pour l'aventure, ils attendent juste que les jeunes qui les aiment leur fichent un peu la paix et puis les laissent partir. La mort, je t'ai dit, c'est dans longtemps. Maintenant, dors, zut, à la fin, puisque je te dis que les enfants, ça meurt pas. Bah maintenant que tu sais que si, et une demi-portion qui s'en va, il n'y a rien de plus injuste au monde. Même pas une finale France-Belgique. Voilà, petit homme, notre copain, il est parti. Envoler ses boucles blondes, ses yeux bleus comme un lagon. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui s'est cru plus important que nous, qui avait un truc à lui dire et qui pensait que ça pouvait pas attendre. Un crabe, déguisé en lapin blanc, et comme ton grand frère avant lui, il l'a suivi. Mais purée, il lui en a fait voir. Il s'est battu comme un lion. Crochet du gauche, crochet du droit, coup de pied circulaire, mawashi, et même un kamehameha. Mais c'est épuisant tout ça, et il a eu besoin de sommeil. C'est plus d'un cœur, pas juste le sien, qui s'est arrêté de battre. Le tien, peut-être, quelques secondes, celui de sa maman, de sa petite sœur, de son papa, mais je te jure que cela reprendra. Dans le film avec les dinos pajoas, ils ont dit que la vie, elle trouve toujours un chemin. Eh ben, je trouve pas ça con. Parfois, on voit pas bien comment. C'est tentant de se dire que les dinosaures ont disparu, mais c'est parce qu'on oublie de regarder les oiseaux. Je sais ce que tu vas me demander, mais je sais pas où il est, moi, ton copain. Pas dans la boîte, ça j'en suis sûre. Dans la boîte, il y a que sa boîte, son ancienne boîte, et maintenant il en est sorti. Tu sais bien ce que je pense de Dieu, Jésus, tout ça, pour moi, c'est des conneries. Voilà. Je crois pas qu'on va au paradis, la vie éternelle, mon cul, puis vivre toujours, tu parles d'un cadeau. Je crois qu'il est encore là, et que quand il sera prêt, ou plutôt quand nous, on sera prêt, il passera de l'autre côté. Et il reviendra. Pas comme on voudrait qu'il nous revienne, c'est vrai. Plus avec des boucles blondes et des yeux bleus comme un lagon. Mais il sera là, et si tu regardes, tu verras. Des fleurs, du vent, des vagues, des hirondelles, des formes dans les nuages. Demain, Minus, on ira lui dire au revoir. On soufflera très très fort dans ses voiles, pour l'aider dans son long voyage. Demain, Minus, on ira lui dire au revoir, mais pas adieu, ça j'en suis sûre.
Merci.
Allez.
On va y arriver. Il y a de la musique dans ce film. Alors j'aurais aimé avoir la version du gamin, mais bon. Elle est dans le film, elle est à voir dans le film. Parce qu'il chante bigrement bien, ce petit Australien. Nothing compares to you. Là aussi, le choix et les paroles sont dingues. C'est-à-dire que j'ai redécouvert les paroles de cette chanson. Elle est pas choisie par hasard, j'imagine. Emmanuel, cette chanson.
Mais si, en fait, je l'ai choisie par hasard.
Mais non.
Ouais, mais vous savez, l'instinct fait des choses merveilleuses.
C'est
non,
ouf.
Non, oui, moi, j'écoute jamais les paroles des chansons. C'est un défaut que j'ai. Et je voulais ce morceau dans le film. Je savais que je voulais que ce soit. Parce que c'est un morceau. Je veux pas dévoiler des choses du film qui créent un peu de suspense, mais enfin c'est un morceau très important dans la vie de Benjamin, le personnage que joue Benoît. Et j'avais envie que ce soit ce morceau-là. Et quand j'ai entendu effectivement
les paroles,
je me suis dit mais c'est fou. Enfin, il y a pas de, moi je crois pas au hasard du tout. Voilà, mais c'est vrai, je serais malhonnête de dire oui, j'ai cherché une chanson qui.
Il y a pas
qui...
de hasard, il y a des rendez-vous, c'est ça.
Ouais, voilà.
J'ai trouvé que la version qui a chanté dans le film est bien plus belle que l'original.
Tu veux alors dire ça, c'est chanté par le petit acteur?
Ça c'est pas le petit. Ça c'est pas l'original. C'est
le jeune acteur. L'original après, oui.
Voilà, l'original c'est Prince.
Ouais. L'original c'est Prince.
Ouais. C'est une chanson de Prince qui a été reprise par Shiny O'Connor qui en a fait un tube, ouais. Puis Prince l'a rechantée.
T'avais fait écouter la version de Prince?
Bien sûr. Hein,
ouais, ouais. L'original c'est celle de. Moi,
j'aime
de
bien
Prince.
La version avec Rosie.
Et puis il y a le docteur Sarah qui lui-même reprend des chansons. Ça aussi c'est la version originale. Hein. On va se calmer. J'ai pas eu accès à.
C'est trop cher, vos droits.
À l'acoustique. Oui, je l'ai demandé sur Taratata, il me dit non, je vais pas chanter.
Ah, violon.
Ces scènes où vous êtes tous en groupe avec les infirmières, les assistantes, du médecin et autres, avec une guitare en train de chanter comme une espèce d'exutoire.
Exactement, c'est un exutoire parce que je fais ça après ces cercles de parole qui sont des réunions difficiles. Hein. On parle de choses vraiment lourdes qui sont réelles, que les gens ont vécues.
Et vous faites le tour en disant à chacun, donne-moi un mot, dis-moi ce que tu as pensé à ce moment-là.
Oui, parce
que ça sorte.
Cette technique, je ne sais pas comment elle m'est venue un jour. Ma réunion commence avec une des personnes qui raconte une histoire qu'elle a vécue ce mois ou qu'il a vécue ce mois. Et après ça, tout le monde écoute cette histoire. Je dis, bon, que chacun me donne un mot de ce que cette histoire vous a inspiré. Et je demande à ce que personne ne répète le mot de l'autre, évidemment. Et je pense que ça nous oblige à disséquer les sentiments et les émotions qu'on a sentis en l'écoutant. Ouais. Et à partir de là, on commence une discussion. Donc, et ça marche vachement bien de pousser les gens à donner un mot de ce que cette histoire leur a inspiré.
Il y a une scène dans le film où vous avez toujours ce sourire qui est d'une tendresse et d'une empathie, d'un amour infini pour les patients, pour les malades, même lorsque il y a des réponses, je vais pas qualifier d'agressives, mais qui sont un peu plus tendues parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce que vous allez dire. Donc évidemment, on vous en veut. Vous êtes le porteur de mauvaises nouvelles. Donc on peut pas s'en prendre à la maladie directement et vous en êtes l'incarnation, le messager. Et il y a pourtant des moments où vous vous laissez prendre par l'émotion. Et dans le film, il y a un moment où vous pleurez.
Il y a plus qu'un moment où j'ai des larmes, mais réelles, parce que je les sens. Mais je sens, j'exprime mes émotions, mais je vais pas non plus déstabiliser mon malade. Donc je les sens et je les vis. Et je pense que ça permet de créer une communication intense avec mon malade. Et je pense que le malade se sent vraiment considéré comme quelqu'un de spécial à ce moment-là par son médecin.
Et vous dites, c'est pas au malade de consoler le soignant, l'infirmière ou le médecin. Faut qu'il ne pas se cacher quand on est médecin face à un patient. Ça, vous l'acceptez? On peut pleurer. Un médecin peut pleurer devant son malade.
Oui, je pense qu'il va pas pleurer avec des
un chaud de larmes.
Oui, mais montrer l'émotion que nous avons, oui, c'est tout à fait normal. Et je pense que ça crée une connexion très puissante avec le malade qui sent que vous comprenez ce que lui sent. Parce que je pense que j'entends trop souvent des malades qui me disent mais ils ne m'écoutent pas, ils ne sentent pas ce que je sens, ils ne communiquent pas avec moi. Et je pense que la communication se fait à tous les niveaux, avec les paroles, avec les sentiments, les expressions, tout ça.
Et à chaque cas, à chaque famille, il faut adapter son discours?
Absolument. Absolument. Même le même malade, à trois consultations différentes, il a un autre état émotionnel. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut danser avec le malade, comme le tango. Oui. Vous devez sentir le corps de votre partenaire. Si vous faites une faute, vous trébuchez tous les deux. Donc, il faut en permanence mesurer ce qu'on dit, ce qu'on sent avec le malade.
Et là, il y a un jeu formidable. Il y a ce regard, Benoît Magimel, lorsque le docteur pose ses mains sur vos épaules, il y a un premier regard avec le « mais qu'est-ce qui se passe ?» On va danser le Sertaki, qu'est-ce qui... Et donc voilà, et donc d'un coup, vous posez vous aussi les mains sur l'épaule. C'est ce jeu-là...
Oui, c'est le lien qui est créé, en fait. C'est le lien qui est important.
Bien, ouais,
il y a un lien qui se crée. Personne n'a envie d'entendre la vérité si c'est dit comme ça en 5 minutes, quoi. Et c'est malheureusement souvent le cas. Mais quand tout d'un coup, quelqu'un prend le temps de vous écouter, de vous regarder, il me disait mon malade, c'est ma star, quoi. Je le regarde comme ça, et il doit être important à mes yeux. Et c'est se sentir important, se sentir regardé, se sentir aimé, juste ça. Aujourd'hui, tout le monde se retient de leurs émotions, se retient des choses. C'est vrai, le personnel soignant est là, mais c'est tellement bon de ressentir un regard bienveillant quand on est dans la maladie, quand on est... Donc c'est ça qui véhicule ce monsieur. Et donc on est prêt à tout entendre, on est prêt à tout accepter. Et c'est vrai que on a envie de ça, on a envie de ça, on a envie d'être voilà, c'est une relation presque d'amour, hein, c'est beau. D'ailleurs, c'est une déclaration d'amour, ce film.
Ah, clairement, clairement. Non, mais y compris le titre, quoi. Deux sont vivants. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de
mais c'est
clamer.
Ça. C'est de réaliser que deux sont vivants, en fait. C'est une phrase qu'elle a prise à Coluche, c'est ça? Qui disait, je préfère mourir de mon vivant. Parce que des gens sont déjà morts avant même de toucher terre, quoi. Donc, c'est tellement, voilà, c'est encore une fois, ça relève le sens des choses. Et moi, je pense toujours à ces dames qui sont là en permanence. Les gens parlent toujours de ces femmes qui tout le temps viennent prendre soin de vous quand vous êtes alité, quand vous êtes dans une chambre. C'est les seules personnes qui viennent et qui veillent sur vous. Donc un regard de compassion, et un échange. C'est ce qui reste, en fait.
Vous avez dit, Emmanuel Berco, au début de cette émission, que vous vouliez écrire sur un mélodrame entre la mère et son fils autour du cancer. Mais vous aviez envie de faire passer des valeurs, des messages particuliers en voulant faire ça, sans savoir que ça allait devenir justement un peu l'objet du docteur Sarah qui d'un coup là a carrément une thèse dans ce film. On a tous envie, en cas de maladie, d'avoir un docteur comme lui qui s'occupe de nous.
Alors totalement, j'ai toujours vendu mon projet à mes producteurs et tout ça en disant je veux faire un film sur la mort, mais qui soit plein de vie, qui soit joyeux, qui soit positif et dont on sort heureux. Donc c'était un sacré défi. Alors c'est vrai que la rencontre avec Gabriel a facilité beaucoup les choses parce qu'il est venu avec sa puissance de vie, sa joie de vivre incroyable et sa philosophie, et c'est vrai qu'il a totalement, il m'a permis de réussir, j'espère. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce que disent les spectateurs qui ont vu le film. De faire un film sur la mort, mais qui soit plein de vie, qui soit un hymne à la vie.
Ayez des rêves, le docteur en a, l'acteur en a, la réalisatrice en a. Et quand on sort de ce film, ouais, on a envie de passer quelques coups de fil. J'arrête de te regarder, Morgane. Ok, d'accord. Et on va parler de la musique. Allez, la musique dans vos vies, cette fois-ci, Emmanuel Berco, en 74-75, vous écoutiez Jane Birkin. Difficile d'imaginer quoi dans ces années 74-75 pour Emmanuel Berco.
La décernée, donc on est en 74, Emmanuel. Et on va parler d'une colonie de vacances. Qui revient finalement dans la tête haute, une expérience de petite fille. Vous vous retrouvez dans un camp pour jeunes délinquants. Vous avez quoi, 8 ans, quelque chose comme
8
ça.
Ans.
Et finalement, dans la tête haute, cette petite fille qui fait son apparition à la fin du film, c'est vous?
Oui.
Ça pourrait être vous.
Non, mais c'est vrai que c'était un peu fou de me dire que ce film, La tête haute, que j'ai fait donc à je sais plus quel âge j'avais, mais plus de 45 ans ou même plus. Je pense qu'il est vraiment venu de ce souvenir de mes 8 ans où moi, petite fille d'un milieu aisé, je me suis retrouvée accompagnant mon oncle qui était éducateur et je crois que c'est la première fois que je voyais des enfants en souffrance en fait. Ou cassés, abîmés, pas élevés. Et ça m'a marqué au point que 40 ans plus tard, j'ai eu envie d'en faire un film. Donc c'est toujours drôle de voir où sont la source des sujets.
Ouais, c'est drôle que vous y mettez la souffrance finalement. Hein.
C'est étonnant.
Dites dans un éclat de rire. Vous écoutiez, quant à vous, Benoît Magimel, Elvis. Alors Elvis. Avec ce titre-là, c'est Elvis comédien ou Elvis chanteur? Parce que c'est pas non plus le plus grand acteur. Hein.
Non, mais c'est la grande période, quoi. Ouais. C'est la plus belle, quoi. Jusqu'à son concert, là, tout en cuir. Et bon, non, mais ça, c'est vrai que j'avais envie d'être comme ça. Quoi. Dans le rock du bagne, il est beau, il danse super bien. Ouais, j'ai envie d'être lui, quoi. Je voulais être Elvis Presley.
Mais en 74-75, t'avais quel âge?
C'est sa naissance.
Je leur ai demandé, mais 74, je suis un bébé.
Mais il y a des barboteuses en cuir qui sont très chouettes. Hein.
Année de votre naissance, Benoît Magimel. Quand vous parlez dans les interviews de votre enfance, vous parlez d'une enfance où vous avez dû vous débrouiller très tôt tout seul. Vous aviez une maman qui élevait deux autres enfants en plus de vous et donc qui bossait. Et donc ça fait des enfants qui doivent aussi s'organiser.
Ouais. Ouais. Enfin, beaucoup de liberté, en fait. Ouais. C'est ça, en fait. J'ai toujours rêvé de liberté, moi, d'être tranquille.
Et vous aviez un grand-père un peu artiste?
Je sais pas, il était de l'assistance publique, il a fait sa carrière il a été militaire, et puis je sais que j'ai un souvenir de lui où il était dans un mariage déguisé en tutu. Alors on se demande d'où ça sort, les trucs. Il avait 75 piges, et puis il dansait comme un... Là, je sais pas, René, mon grand-père René.
Bah, évidemment, c'est René, bah évidemment.
C'est le déguisement, quoi. En tout cas, c'est déjà le jeu, c'est le déguisement, c'est l'amusement, en fait.
C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'aime dans ce métier, c'était ça, c'est de me déguiser, quoi.
Et moi, je voudrais revenir avec vous, docteur Sarah. Sur la musique que vous aimez, celle que vous chantez.
Là, c'est vous qu'on entend chanter, là.
Non, c'est Bill Withers, mais... c'est rare que la musique soit aussi présente, que ce soit en forme d'exutoire ou de partage, en tout cas, mais on dit non, ça... C'est bidon, c'est une fiction, c'est dans le film, ils veulent faire pleurer dans les chaumières le docteur qui avec toutes les infirmières font allez, on tape des mains et on fait du gospel et tout va bien. Ça vous est venu quand? D'abord, est-ce que vous avez grandi dans l'amour de la musique?
Absolument, j'ai une famille où, des deux côtés, mon père et ma mère, tout le monde adore la musique, quelques-uns sont musiciens. Donc la musique fait partie de ma vie depuis très, très tôt. Et j'adore la musique toujours. Et puis quand j'ai découvert la musicothérapie que je ne connaissais pas, j'ai réalisé la puissance de la musique et le côté thérapeutique de la musique qui aujourd'hui pour moi fait partie du traitement normal.
Mmh. Et alors vous choisissez les morceaux en fonction des paroles, de l'air, de votre humeur du moment où je peux les jouer à la guitare ou je ne peux pas les jouer à la guitare. On va dire la vérité.
En fait, je ne suis pas toujours le seul qui... Je joue avec mes autres
docteur,
collègues.
Docteur, on va dire la vérité.
Non, pour ces sessions-là, ouais. Pour ces sessions... Je suis aidé par des musicothérapeutes qui eux aussi jouent. Moi, je joue pas à chaque fois. Mais nous préparons des chansons, deux ou trois chansons, selon l'humeur de la conversation. C'est eux qui choisissent, mes musicothérapeutes.
D'accord. Et c'est ça tous les jours?
Pas tous les jours, une fois par mois.
Une fois par mois?
Oui.
D'accord. OK. Bon, il faut le temps des répètes, oui. La balance, etc.
Oui, c'est ça. C'est pas ça, comme ça non plus.
Docteur Gabriel Sarah. Pourquoi vous avez pas mis docteur sur l'affiche d'ailleurs, Gabriel Sarah? Vous avez juste mis Gabriel Sarah?
Bah parce que c'est Gabriel Sarah l'acteur. Ah. Voilà pourquoi.
Voilà, okay. Nagui. Bonne réponse. Très bien. Je marque un point. Cécile de France, Catherine Deneuve, Benoît Magimel et Gabriel Sarah, qui est aussi docteur quand il n'est pas au cinéma. Tout ça devant la caméra d'Emmanuel Bercot s'appelle De son vivant. On parle avec eux de ce film, encore une fois, jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, voici le héros du jour.
Ouais, absolument. Déjà,
ah, ça va vite.
Un peu d'avance. Oh,
attends,
les petits
pas,
amis,
un petit
truc. Ah, merci.
Voilà. Daniel Morin, le héros du jour.
Mes petits amis, aujourd'hui, j'aurais pu facilement choisir comme héroïne du jour la chicorée. Oui, la chicorée, à qui le calendrier révolutionnaire consacrait la journée du 23 novembre. Qu'est-ce que c'est beau, la fleur de chicorée, nom de Dieu, d'un mauve exquis, un mauve qui vous caresse l'œil sans l'agresser. Avec ses pétales légèrement écartés, la chicorée n'essaye pas de vous en mettre plein la vue, comme un gros hortensia joufflu, dont les grappes de fleurs sont tellement lourdes qu'il est impossible de les mettre en vase, ou alors un vase en fonte, sinon tout se casse la gueule sous l'effet du poids et de la prétention de la fleur. Voilà pourquoi la chicorée aurait pu être mon héroïne du jour, mais elle ne l'est pas. Non, elle ne l'est pas, parce que je me souviens que la chicorée, de ça, on fait aussi une poudre que certains mélangent au café et qui me donne la nausée, ainsi qu'une irrépressible envie d'aller au Wawa. Du coup, mon héros du jour est le ministre allemand de la Santé. Absolument, James Spahn est mon héros. Hier, il a pris la parole pour évoquer la flambée de l'épidémie de Covid en Allemagne. Ah, et il a déclaré...
Déclaration de dingue.
À la fin de l'hiver, chacun sera vacciné, guéri ou mort.
Allez, bonne journée.
Mais c'est ça qu'on aime avec les Allemands. Allzweit, Reichstag, Hartung. Les gars, ils tournent pas autour du pot comme des glands. Ils disent les choses, merde. Nous, on est là en France, on minaude. Ah, faut être prudent, attention, la vague est haute. Faites comme vous voulez, bien sûr, on respecte vos décisions, mais faites attention. Non, en Allemagne, on dit les choses. Le virus est revenu, soit tu tombes malade, mais t'es vacciné, tu guéris. Soit tu tombes malade, t'es pas vacciné, tu meurs. J'aime cet esprit conquérant. Et c'est pour ça que j'en appelle à notre ministre de la Santé.
Oui.
Cher Olivier Véran, la France l'a bien vu, vous avez du mal à communiquer. En même temps, je ne vous jette pas la pierre. Monsieur le ministre, c'est pas facile d'annoncer les mauvaises nouvelles. Alors, écoutez-moi, je vous le dis droit dans les oreilles. Embauchez votre homologue allemand. C'est un tueur, le gars. L'émotion, il en a rien à foutre. Hier, elle a clairement dit à la populace qu'elle allait peut-être crever.
Ah, ça fait pas de sentiment, les Allemands, ça fonce, ça défonce. Rappelez-vous, France-Allemagne, 1981, ils nous ont marché sur la gueule. Et tout ça au nez de l'arbitre. En football, le ballon a peur des Allemands. En maladie, le virus a peur des Allemands. Si vous ne faites rien, monsieur le ministre, ah ben je serai obligé d'aller sonner à l'étage du dessus.
Non.
Monsieur le Président, je sais que vous nous écoutez. Je viens de parler plutôt à Olivier Véran qui visiblement fait la sourde oreille. Je vous en conjure, remplacez-le par James Spahn, le ministre de la Santé. Lui, il sait parler aux gens. Alors, peut-être, c'est pas un grand diplomate, mais il dit les choses. Monsieur le Président, je sais, c'est pas très bon de faire peur à la population à 5 mois de l'élection, mais la vérité, vous nous la devez. Bisous. Voilà, les amis, je crois sincèrement que James Spahn mérite l'insigne honneur d'être mon héros du jour.
Merci. Tanguy Pastureau, bonjour. De quoi parles-tu aujourd'hui ?
Je vais vous parler des talibans, hein, ces gens un peu fermés qui aiment les flingues, les barbes, mais pas les femmes. Et là, ils ont carrément interdit les séries télé comprenant des femmes. Ça les ennuie. Hein.
Nous allons continuer d'évoquer avec Emmanuel Berco qui réalise sublimement ce film de son vivant avec Catherine Deneuve, Cécile de France qui est au casting, mais présent autour de cette table, Gabriel Sarra et Benoît Magimel, absolument formidable. Ça s'appelle De son vivant, c'est demain au cinéma et on en parle jusqu'à midi. C'est la bande originale avec Lina Cadeau Boudadi, Morgane Gagnon, Florence Mendes, Tanguy Pastureau, Daniel
Morin
et nos invités Emmanuel Berco, Benoît Magimel et le docteur Sarra. Pour ce film, De son vivant, avec cette rencontre qui a eu lieu à la fin de la projection d'un film d'Emmanuel Berco et où vous avez dit, docteur, êtes-vous prête ou voulez-vous
visiter
faire un
les
film
tranchées du cancer.
Pour visiter les tranchées du cancer. Pourquoi tranchées d'ailleurs ? C'est une guerre ?
Oui, c'est une guerre. Certainement, l'ennemi est la maladie et le malade a été jeté sur le front sans qu'il ait jamais voulu aller se battre. Et donc... Moi, j'espère être le coach qui va lui permettre de vivre cette bataille.
Ouais, coach rempli de philosophie, de psychologie.
Et de sourire. Parce que là, même quand vous dites que c'est une guerre, vous le dites avec le sourire.
Ouais.
C'est presque déstabilisant. Non, vous me déstabilisez beaucoup, docteur.
C'est un sourire malicieux en même temps. C'est aussi le sourire avec le je peux quand même te faire la peau à toi, la maladie. Parce que là, ça finit mal dans le film. Mais est-ce que, et heureusement, un cancer sur deux se soigne? Ça aussi, il faut le dire, s'il est dépisté à temps, mais aussi, quelle est la part de la force psychologique et mentale dans la lutte contre le cancer ?
On me pose souvent cette question. Est-ce que tu penses que l'état psychologique va augmenter la chance de guérison ? Ma conviction profonde, c'est pas que je me trompe, c'est que je pense pas que l'état psychologique du malade a un effet sur la durée de vie ou sur la chance de guérison. Mais par contre, ça a un effet énorme sur la façon de gérer ce parcours de la maladie, que ce que la fin soit bonne ou pas. Mais cette vie qu'on va vivre va être transformée par l'état psychologique du malade. C'est pour ça que je travaille là-dessus énormément pour essayer de donner ce que j'appelle en anglais empowerment à mon malade, de donner ce sens du pouvoir qu'il est encore quelqu'un de formidable.
Voilà. Non, mais j'imagine.
Voilà, moi quand tu dis ça, moi je suis pas forcément d'accord. Je pense
moi
que
non plus.
La puissance.
J'ai pas fait d'études de médecine.
Eh ben ouais, mais justement face à ce savoir médical, de temps en temps, il faut aussi être un peu mauvais élève et croire en ses convictions. Moi, j'ai vu des gens avec une force de une force morale extraordinaire, défier toutes les statistiques, quoi.
Ouais. Et à l'inverse, on peut avoir le sentiment que ceux qui entendent le mot cancer se disent « Ok, c'est foutu » et se laissent partir,
voilà.
Finalement aussi, sans se battre. Mais c'est vous le docteur. On n'est que des amis.
J'ai vu quelqu'un partir comme ça. Il a décidé, il était bien portant, mais il avait capitulé totalement. Il voulait plus vivre et il est parti en 2 semaines. C'est fou quand même, le pouvoir, tu sais, de l'esprit quand même. Il était en pleine santé, il était malade, mais il allait bien. En 2 semaines, il décide de partir. Et il l'a voulu, et il est parti.
Écoute, il ne faut pas avoir l'esprit bloqué.
Non.
Hein, avec ce que j'ai dit maintenant. Je suis sûr qu'il y a des cas où il y a un effet.
D'ailleurs, vous dites dans le film que c'est le malade qui décide aussi du moment où il part.
Oui, mais là, pour moi, enfin, de mon expérience, parce que quand même j'ai vu énormément de malades partir, je pense que le malade a certainement un pouvoir sur les heures ou les derniers jours, mais pas sur des mois ou sur des semaines.
D'accord.
On le sent.
D'accord.
Gabriel, l'anecdote que tu me racontes sur cette femme d'origine grecque,
oui.
Tu me dis, au départ, les pronostics sont quand même pas très favorables, c'est assez court, et finalement elle a vécu 5-6 fois plus longtemps que ce qui absolument normalement était sur le, tu vois. Donc elle a changé énormément de choses dans sa vie. Elle devait peut-être vivre 6 mois et elle a vécu 3 ans et demi. Donc qu'est-ce que t'expliques ?
D'ailleurs, le fait de parler du temps, on n'a pas évoqué cette espèce de compte à rebours et de course contre la mort. Vous l'avez symbolisé, Emmanuel Berco, par les saisons, 4 saisons, parce que voilà. Parce que quoi, Vivaldi ou parce que...
Oui, sûrement Vivaldi. Non, mais c'était une façon de... Comme on sait dès le début du film, il n'y a aucun suspense là-dessus, qui va mourir et il lui donne un pronostic de vie que je vais pas dévoiler là, qui en tout cas peut s'étaler sur 4 saisons, pas 4 saisons entières, mais voilà, c'était une façon de chapitrer le film en commençant toujours par ces séances collective avec le personnel soignant, et on ouvrait chaque fois un nouveau chapitre du parcours de Benjamin jusqu'à l'issue fatale, où finalement il va gagner en vie au fur et à mesure qu'on va vers le printemps.
Voyage, voyage, plus loin.
Ça, ça fait partie de la BO.
Ouais.
Soap et Skin, Voyage, Voyage, revisité pour ce film de son vivant, un film avec Catherine Deneuve et Cécile de France et nos invités, Gabriel Sarah, Benoît Magimel, le tout devant la caméra, la direction d'Emmanuel Berco. Voici Tanguy Pastoureau.
Tanguy. Hier, j'étais dans un café, il y avait pas mal de gens en train de partager un latte et le Covid. Donc, je me suis connecté sur le site du Monde. Hein, j'ai toujours fait ça pour me donner un côté intello. Avant Internet, j'ai acheté le Monde et Entrevue. Dans le train, je glissais Entrevue dans le Monde. On me prenait pour un social-démocrate éclairé alors que je matais des photos de Mallory Nataf sans slip. Parfois, je me trahissais, je criais « Ah la vache, incroyable, cette interview vérité de Mimi Mati qui s'exprime sur ses années héroïnes et sodomies. Hein, » Parce qu'Entrevue, ils arrivaient toujours à faire dire des choses sulfureuses aux stars les plus sages. Hein, en couve, parfois, il y avait écrit « Grosse fesse, raga et gun, Jean-Paul II raconte ses nuits folles au cœur du ghetto jamaïcain. » Alors, Entrevue existe toujours, mais comme la réalité est devenue plus trash que le magazine, personne ne le lit plus. Bref, hier, j'étais sur le site du Monde et je suis tombé sur un article concernant les talibans. Les talibans, vous savez, sont ces gens qui ont profité que Joe Biden avait d'autres choses à faire, comme des coloscopies, pour reprendre le pouvoir en Afghanistan. Et ce sont des personnes relativement fermées au niveau des mœurs. À la marche des fiertés, il n'y a pas un taliban. Alors certes, Kaboul République, bon, ça fait loin à pied. Et en 2001, les talibans sont totalement passé à côté des soirées Fuck Me I'm Famous. Le taliban, on peut le dire, n'est pas fun. Et notamment avec les femmes, ces aides qu'ils considèrent comme subsidiaires et qui foutent sous des tas de fringues. J'ai un ami qui met un t-shirt plus une chemise par-dessus, plus une sous-doudoune et sa veste de costard, qui m'a dit à côté d'une femme afghane, je suis Cyril Hanouna à ses débuts sur la chaîne Comédie quand tous les soirs ils se mettaient à poil. Je ne comprends pas cette aversion qu'ont les talibans pour les femmes. À mon avis, ils ont juste écouté Louane ou Chaim et en ont tiré des généralités. Alors que les femmes, c'est aussi Nathalie Saint-Cricq, qui elle a un sacré sens du tempo. Et là, que lis-je dans Le Monde ? Que les talibans demandent aux chaînes de télé chez eux de ne plus diffuser de séries montrant des femmes. Ce qui est absurde, parce que par exemple, Drôle de Dame, sans femme, hein, c'est juste l'histoire d'un type qui dans Charlie. Un haut-parleur dit « Oh, il y a quelqu'un ? Zut, alors ça tombe mal, j'avais une enquête à résoudre hein ! » Hélène et les garçons sans filles, c'est une cafétéria gay. Plus belle la vie sans femme, au Mistral, il n'y a plus que des mecs, et les politiques d'extrême droite arrivent en disant « Eh ben voilà, encore un bar communautaire !» Alors je sais que vous allez me dire que la télé afghane ne passe déjà pas ces séries. Et c'est vrai, de même que le remake de Sex and the City, une série sur la ménopause, bon, ils vont pas aller le vendre là-bas. Déjà, moi, qui ai grandi avec Love Amour, la première version de Sex and the City, j'étais parfois choqué. Donc, j'imagine que des gens à qui on a appris que la femme était impure sont pas prêts à aller voir discuter de la taille du oui-oui de Mr. Big au Sphincter Café de New York entre deux cheesecakes. Mais les Afghans ont des séries afghanes qui doivent les passionner, comme nous avons été passionnés par les cordiers jugés flics. Or, dans ces séries, il y a des hommes et des femmes, puisqu'entre deux périodes de talibans, ça s'était relâché. Alors, rien de dingue, hein, ça n'a pas tourné à l'orgie, aucun film X intitulé Les petites poules de Kaboul n'est sorti, et pourtant il y a une reprise en main. En Afghanistan, il y a notamment un ministère de promotion de la vertu et de la prévention du vice. Dès que quelqu'un devient vicieux, un type qui pense Mélodie Frégé, elle est quand même bien mutine, tac, un employé du ministère vient le fouetter. Le type a beau crier, mais je suis une crème, l'autre répond, justement.
Ok. Ça, non mais ça fouette énormément. Fouetté, oui, ça fouette énormément en Afghanistan. Si les Américains reviennent, parce qu'ils auront trop de stocks d'armes à écouler au bout d'un moment. Bon, les talibans pourront se reconvertir dans les prestations de sosie d'Indiana Jones pour les mariages à Vegas. Alors attention pour ceux d'entre vous qui auraient une dent contre les talibans, voire bon toute la bouche. Précisons qu'avant c'était pire. Entre 96 et 2001, la télé était carrément interdite. Voilà, on pouvait en avoir une, mais pas l'allumer. Les gens se la lançaient, ils jouaient au volet avec. Il y en a qui s'en servaient comme vase. Être en possession d'un magnétoscope était même passible de flagellation publique. Yeah. Alors qu'aujourd'hui, être en possession d'un magnétoscope est passible de ringardise. Hein, donc là, le fait de juste interdire les femmes à l'écran, de leur part, ça apparaît comme étant limite libertaire. Il y aura toujours des séries, mais que avec des mecs, tous dotés d'une vertu XXL. Même s'il y en a un qui a un petit cul super, les autres regarderont son oreille droite en se disant « Reste focus, Xavier, reste focus hein, !» Pour vous dire qu'en Afghanistan, ils vont bien se faire yèche. Un thé avec le prince Charles en train de pioncer à côté, ça va être soirée mousse. Et là, dans ce café où je lisais Le Monde, j'ai regardé autour de moi, il y avait des gens hein, qui tous me regardaient, je leur ai dit oui c'est moi, parce que tu vois, arrêtez de me harceler, ça va. Hein, y en a un qui a répondu non, c'est pas ça, mais Safari est passé sur un autre onglet. Là vous êtes sur la page Facebook d'entrevue, c'est gênant. La honte. Il y avait la une de juillet avec écrit Naela Savidan, la bamba latina du fitness. Hein, une dame en soutif qui semblait avoir chaud, rapport au fait que son corps était perlé de gouttes de sueur. Bon, en même temps, le terme bamba latina est rarement associé à une photo de dame en polaire avec des bottes hug. Hein, jamais on a dit à la chanteuse Björk, hey, tu es la bamba latina des Reykjavik. Voilà. J'ai donc recliqué sur l'onglet du Monde en me disant que les X-Files sans Scully, c'était juste Mulder en train de délirer seul sur les aliens, donc l'équivalent d'un repas du dimanche midi un peu arrosé avec un ongle déchiré. Quant à la série The L-Word, sans femme, il reste pas grand-chose. Voilà.
Merci Tanguy Passion.
Et Tanguy, tu seras le 14 janvier au Zénith de Pau.
Oui. Benoît Magimel, Gabriel Sarra, à l'affiche de Son Vivant signé Emmanuel Berco. Les trois sont nos invités, également présentes dans le film Catherine Deneuve, Cécile de France. Et comme d'habitude, autant d'acteurs que de gens de la vie normale, entre guillemets.
Ouais, comme d'habitude. Ça, vraiment, depuis mes premiers courts-métrages, je pratique ça. Moitié de non-professionnel, moitié de professionnel. Et là, évidemment, pour le
personnage. Vous avez si peu confiance dans les acteurs?
Très peu confiance, très peu d'acteurs que j'aime, donc je suis obligée de compenser. Non, j'ai un vrai plaisir à faire tourner des gens dont c'est pas le métier, parce que...
Mais certains doivent être faux.
Non, mais je fais des castings.
Oui, c'est ça.
Je fais des castings très très poussés, même des non-professionnels.
C'est pas deux fois plus de travail de coacher des non-acteurs?
Non, parce que c'est le choix de l'acteur qui compte. Une fois que je l'ai choisi, il n'y a pas plus de travail. Mais là, par exemple, pour les personnels soignants, Je vous assure que si, je sais pas comment l'expliquer, mais si vous prenez une infirmière qui marche dans un couloir, si elle est pas une vraie infirmière,
elle marchera pas de la même manière. Ouais.
Ça, je sais pas, ça sent, ça
poids.
Fait faux. Ouais,
c'est ça, bien sûr.
Et puis là, c'est vrai que j'avais envie du fait que le docteur Sarah.
Il faut savoir marcher avec des crocs, hein, surtout.
En plus. Non, mais du fait que le docteur Sarah était lui-même médecin, j'avais envie de l'entourer de vraies infirmières. C'était logique. Et d'ailleurs, je les voyais entre chaque prise et se racontaient. Toute leur vie hospitalière, ils avaient l'air passionnés. Ça apporte de la vérité, ça j'en suis persuadée.
En plus de Gabriel Sarra et Benoît Magimel, Catherine Deneuve, donc Cécile de France, Oscar Morgan, Lou Lampros, Mélissa George-William, Clément Ducol-Gladys, Olga Mouak, Marc Fauveau, Babetida Sadjo, Isabella Maya, Marouchka Jouri, Julie Arnaud-Marcel, il y a évidemment Nara. Puisque Nada, pardon, puisque votre épouse joue également dans le film.
Oui.
Vous n'avez pas voulu pousser le vice à dire non, je veux une actrice, je veux Salma Hayek à côté de moi dans la voiture. Non, vous n'avez pas fait.
Ah, j'adore
pas...
Salma Hayek.
Secrètement, en fait, j'espérais que Emmanuel proposerait à mon épouse de jouer dans le film, mais je ne lui ai pas dit. Je lui ai demandé qui tu as choisi pour mon épouse, et elle m'a dit elle-même. Est-ce que Nada a un peu bien joué? Et ça se passait comme ça. Mais dans mon cœur, c'est ce que j'avais envie de voir.
Qu'est-ce qui se passe, la musique?
C'était bien cette petite musique.
Ouais, c'est joli, mais c'était pas intentionné. Mmh. Non. Intentionnel. Voici d'autres événements dans la culture. Ouais. Leïla Kadour.
On va parler de Christopher Walken, qui, pour les besoins d'un tournage, a dû détruire quelque chose. Mais quoi donc?
Son visage.
Ses dents.
Non, alors c'est pas physique.
Sa hanche.
Sa dignité.
C'est pas compliqué physiquement à détruire comme.
Ses prétentions salariales.
Non.
Alors, une voiture?
Non.
Une maison?
Ça coûte très très cher.
Sa femme
très,
très... ça, une ça maison, c'est pas compliqué à détruire, Nagui?
Bah, je sais pas.
Récemment C'est récent.
Ouais, c'est pour l'épisode 4 de la série britannique The Outlaws.
Sa montre.
Ça coûte très très cher.
Ça coûte très cher, c'est de l'art.
Un tableau?
Un tableau.
Ah, ouais, une sculpture alors, ouais.
Un Picasso, un Van Gogh. Non,
c'est impossible ça.
Il a détruit la Joconde, on
le
sait pas encore.
Non, de l'art plus récent.
Un Duchamp?
Un Banksy.
Absolument.
Ah oui, c'est vrai.
Non.
Il a dû détruire une œuvre de Banksy. Son personnage devait repeindre un mur sur lequel Banksy avait créé une œuvre. Vous savez, ces fameux rats que ce street artiste peint un peu partout. Alors, sachez que l'œuvre avait été créée pour les besoins du tournage. Donc, c'est pas une œuvre existante. Oui. Elle est faite vraiment exprès. Donc, c'est un peu moins grave, on va dire comme ça. Quelle est la chose la plus folle que vous soyez autorisé, Manuel Berco, pour un tournage?
Mais les tournages, c'est un truc fou en soi, en fait. Donc,
voilà, de tourner, tout simplement.
C'est le fait de tourner, tout simplement. Ouais. À chaque fois, je me dis, j'y retournerai pas.
Pourquoi?
Parce que je trouve ça trop dur.
C'est fatigant. Physiquement?
Physiquement, c'est épuisant, mais c'est pas grave, parce que c'est deux mois et demi si on a beaucoup d'argent. Donc, c'est pas toute la vie qui est comme ça. Mais moi, à chaque fois, je sors, je me dis, c'est trop difficile, je veux plus revivre ça.
Et qu'est-ce qui fait que vous y retournez?
D'abord, la nécessité de payer mon loyer, quand même, pour commencer. Et puis après, il y a
toujours... Vous pouvez contenter d'être actrice et de dire, je vais simplement jouer et pas être réalisatrice. Vous êtes à l'affiche de plein de films là, qui vont sortir, L'Ennemi, Goliath.
Je ne sortirai pas. Non, mais c'est pas ça. Mais il y a tout d'un coup, un sujet qui va... C'est vrai que quand je fais un film, c'est que je suis vraiment... Mais totalement passionnée par le sujet. Donc, si un sujet me rentre dedans... au point que je retrouve la force de repartir en écriture. Enfin, ça prend 3-4 ans de faire un film, c'est interminable. Et puis c'est parfois, je trouve, très ingrat, parce que ouais. C'est 4 ans de votre vie qui peuvent être réduits en miettes par la presse, par une mauvaise sortie, par
des gens qui... On a été gentils.
Ah non, mais bien sûr.
Il reste 8 minutes.
Non, je parle pas de ce film. Non, ce film, c'est très bien parti. Ça se passe très bien.
Non, mais par un événement qui arrive dans la vie et qui fait que...
Ou le Covid.
Là, c'est vrai que c'est éprouvant, parce que le film s'est arrêté.
Enfin, il y a plein de gens qui ont eu des catastrophes. Non, c'est un métier qui peut être très ingrat, parce que c'est énormément de travail pour parfois être réduit en miettes à 14h le mercredi.
Après, chaque film, elle dit, bon, maintenant, pendant 2 ans, je vais être actrice. Uniquement.
Je me dis rien, j'attends que quelque chose m'arrive. Et puis c'est vrai que j'adore diriger des acteurs.
Mais Catherine Deneuve, Benoît Magimel, oui, c'est ça, c'est votre bande, c'est votre famille.
Oui, c'est ma famille.
Benoît, si elle vous appelle pour tourner, Manuel Berco, vous ne discutez pas.
Ah non, je discute pas. Non. Obligé. Sinon, je me prends un taquet.
Elle vous menace.
Non, mais ce qui est beau avec Manuel, c'est que franchement, elle vous regarde, elle, on sent qu'elle a envie de vous sublimer, elle a envie de vous filmer, elle a envie de vous porter haut, quoi. Et c'est voilà, il y a pas mieux, c'est magnifique.
Et elle vous a pourtant fragilisé avec ce film. Vous n'êtes pas sorti totalement le même.
J'en suis sorti super heureux, quoi.
Oui, mais pas le même.
Non, mais pas le même. Non,
plus fort.
Bah, tous les films n'ont pas le même poids, mais c'est vrai que celui-ci, il pousse à réfléchir et à voir les choses autrement. Déjà, regarder la mort autrement. C'est ça surtout, ça fait tellement peur, comme on disait tout à l'heure, et c'est tout d'un coup de comprendre que ça fait partie de la vie. Que...
Ouais, mais c'est pas notre culture.
Non, c'est pas notre culture. Il faut justement essayer de dédramatiser, essayer de tourner les choses en dérision un peu, d'y injecter plus d'humour. D'ailleurs, on n'a pas réussi à le faire, mais je voulais faire une imitation de Julien Lepers sur le cancer. c'est quoi le cancer, oui. On voulait faire un truc comme ça, ça n'a pas marché.
Non, vous avez bien fait de pas le faire.
Quelle saloperie.
Et non, mais vous arrivez à voir le film, vous, Benoît Magimel, en tant que spectateur, lambda.
Celui-ci, ouais, mais
il pleure.
Voilà.
Oh là là.
Évidemment. Non, mais rassurez-moi, ouais, vous pleurez beaucoup.
Ouais, bah, je suis un peu chialeuse, moi.
Et Gabriel, docteur Sarah, qu'aimeriez-vous qu'un spectateur dise en sortant du film?
J'aimerais d'abord qu'il se sente optimiste plutôt que pessimiste et sente que le spectateur, s'il devient un jour un malade ou bien sa famille est malade, il a le courage de se dresser et de réclamer qu'on lui dise la vérité.
Ouais, sauf que tous les oncologues ne sont pas comme vous. Donc
Oui, mais je pense que parce que la culture de l'éducation était comme ça, je ne blâme pas les individus médecins, mais la culture générale est comme ça. Mais je pense, et j'ai vu ça arriver moi-même, quand j'ai poussé des malades à se dresser et demander à leur conseil de lui dire la vérité, ben, il leur a dit.
C'est vrai que le supposé savoir médical fait peur. On est là. on est face à ses professeurs, on est là, on n'ose rien dire. Ouais. Peut-être après ce film, on se dit, tiens, la prochaine fois, dites donc, prenez 5 minutes pour me parler. Non, j'ai besoin que vous m'expliquiez les choses. S'autoriser à un moment donné à les arrêter et à être entendu, quoi. C'est ça le plus important. Mais et ça parle de la famille, surtout.
Tous les malades, non, et d'ailleurs, c'est évoqué dans le film, tous les malades n'ont pas envie forcément d'entendre la vérité.
Personne n'a envie d'entendre la vérité. Personne ne veut l'entendre. Mais tout le monde en a besoin. Et c'est notre rôle d'éveiller le malade de l'importance de la vérité et que cette vérité soit acceptée par le malade. Et ça, c'est tout un art dans la médecine, parce que la médecine, c'est pas de la science seulement, c'est de l'art et de la médecine en même temps.
Non, mais il y a par exemple, sur le cancer, des analyses de sang qui permettent de détecter, en tout cas d'avoir des indicateurs pour savoir si oui ou non il y a un cancer dans le corps. Les médecins demandent, voulez-vous que je vous donne le résultat ou pas ? Moi, ça m'a étonné que cette question soit posée.
Je pense que la question est posée au mauvais moment. Il faut la poser avant de prendre le sang. Je vais vous prendre votre sang, je vais faire tel et tel test. Vous voulez que je le fasse ? C'est pas après avoir fait le test que je vous pose la question si vous voulez le résultat.
Non,
il faut la poser avant.
Oui, j'ai mal raconté. Non, c'était avant. Mais c'est arrivé, donc c'est ça qui était un peu.
Mais c'est sûr que si vous avez 5 minutes passées avec quelqu'un, vous n'avez pas envie de le savoir. S'il prend le temps de vous parler et de créer un lien, là, à ce moment, les choses sont différentes.
Et puis, il vous incite à ranger le bureau de votre vie.
Le bureau de votre vie. Mais c'est que, non, la spécificité de Gabriel aussi, c'est que, comme il le dit dans le film, on va faire le chemin, je vous tiendrai la main. Et il lui tient la main, enfin, c'est une image, hein,
oui.
Jusqu'au bout. Donc, il n'est jamais seul. Il est sûrement seul dans ce qu'il vit intimement, mais il est accompagné jusqu'au bout par son médecin. Et c'est ça qu'il faudrait, à mon avis, déployer le plus possible.
Ça, et connaître l'adresse où il va passer ses week-ends, parce que c'est assez joli quand même. La route est plutôt belle. Vous serez, Emmanuel, à l'affiche de L'Ennemi, avec Jérémy Régnier, autre formidable acteur aussi. Ça sortira le 26 janvier prochain. À l'affiche de Goliath, avec Gilles Lelouch. À l'affiche de Manui. À l'affiche de Grande Espérance. À l'affiche des 11 vies de l'abbé Pierre. À l'affiche de...
Payez le loyer, là. C'est quoi la surface de l'appart?
C'était la chute. C'était le côté.
Il faut que je bosse.
Vous avez cité des films qui ne sont pas encore tournés aussi.
Oui, mais enfin.
Non, mais moi, je suis pas cher. Hein. Je suis pas cher.
Et quant à vous, Benoît, je rappelle que Amant de Nicole Garcia est absolument sublime avec Stacy Martin et Pierre Niney, ce trio amoureux extrêmement. Fort. Là aussi, on est dans le suspense et ce sont de très beaux personnages que vous incarnez. Il y a Revoir Paris. Vous êtes en train de le tourner,
ouais,
vous l'avez tourné.
C'est ça, je suis en train de le tourner. Ouais.
D'accord. Et il y a Jack Mimoun et les secrets du Valverde. Ça, c'est un film qui.
Avec François Damien, c'est Jérôme Commandeur et Malik Bentala et.
C'est un film dramatique, quoi.
On est parti, oui, on est parti en Thaïlande le tourner, mais il est pas, non, il est en montage.
Et il y a Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux aussi, Tourment sur les îles ou Dune Dreams, enfin bref, vous êtes tous à l'affiche. Et quel est votre prochain film, Docteur Saint-Martin?
Est-ce que tu penses que tu pourrais jouer autre chose qu'un médecin? Est-ce que tu pourrais jouer une comédie romantique?
Une comédie musicale?
Je suis sûr.
Peut-être.
Je suis sûr.
Un biopic sur Yves Duteil.
Je pense que je ne pourrais pas jouer quelqu'un de méchant dans un film.
Ça va s'appeler Colo de Vacances. Voilà. Ouais. Une coloscopie pendant les vacances.
Des excuses à présenter.
Oh, bien sûr, déjà, désolé, vous en doutez pour notre amie La Déprime qui m'a appelé à la pause pour me dire qu'elle avait été choquée par le traitement qui lui avait été réservé ce matin sur Inter. C'est vrai que d'habitude, on l'accueille mieux sur l'antenne, mais bon. Benoît Magimel nous a dit, faut s'en méfier, elle est là, elle fait des pompes, salope. Désolé pour tous ceux qui auraient voulu écouter cette émission, mais qui l'ont ratée. Pas de panique, joyeux drille, vous en doutez, Emmanuel Berco travaille énormément. Elle m'a confié à la pause qu'elle travaillait sur De son vivant 2. C'est l'histoire de Benoît Magimel qui a guéri du cancer, mais malheureusement, il a chopé la lèpre à Pattaya. Alors, amputé des bras, des jambes, des oreilles, des poumons et d'un testicule, mais il garde la patate, bien évidemment. Désolé pour nos auditeurs encore sous le coup de l'émotion de l'heure et demie passée ensemble. Et alors là, ça fait du bien. Exprimons nos sentiments et comme tout finit en musique.
Version originale, Prince.
Allez, bonne journée à vous.
Tout ira beaucoup mieux demain, nous parlons de l'avortement. Avec l'événement d'Audrey Diwan et avec Anna Maria Bartholomé. Ayez des rêves, vivez jusqu'au bout, accomplissez-vous, essayez, risquez, trompez-vous, ne soyez pas prudent, n'ayez pas peur du ridicule, soyez généreux, authentique. Tous ces mots sont dans la lettre que vous avez écrite, dite par Catherine Deneuve. Merci pour tout ça. Emmanuel Berco, merci.
Et allez voir Emmanuel Berco devant ou derrière la caméra, à chaque fois c'est formidable. Quelle femme vous êtes, Emmanuel Berco.
Et merci à vous, Gabriel, d'être allé, docteur Sarah, d'être allé provoquer, entre guillemets, Emmanuel Berco et de l'avoir poussé dans les retranchements ou ces tranchées de la lutte contre le cancer, de cette guerre, de cette saloperie qu'est le cancer. Mais on va réussir à la gagner, cette guerre.
Ah, t'es médecin maintenant, toi.
Non, non, mais je suis. Mais je suis parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale et je sais que les chercheurs bossent et qu'on fait d'énormes progrès dans la lutte contre le cancer et qu'on peut y arriver. Le dépistage fait partie aussi de cette lutte, c'est-à-dire le prendre le plus tôt possible. Vous ne me direz pas l'inverse, on est d'accord, d'accord.
Absolument d'accord.
Et merci Benoît Magimel, merci mille fois d'être venu et bravo, que ce soit pour De son vivant ou pour Amant. Passez une très bonne journée.